C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, l'audience est ouverte, l'accusé est à la barre, l'humanité, 200 000 ans d'existence et nous voilà près de 8 milliards d'homo sapiens à vivre sur cette terre. La victime aujourd'hui, la victime, c'est le temps. En France, nous vivons en moyenne 700 000 heures, nous passons environ 63 000 heures à travailler, contre près de 200 000 en 1900. Si l'on déduit notre temps de sommeil, le temps libre représente désormais plus de la moitié de notre vie. Et pourtant, nous manquons de temps en permanence. Comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi, malgré les progrès technologiques qui nous libèrent depuis deux siècles des tâches les plus ingrates, nous avons toujours l'impression d'être débordés? L'heure du deuxième procès du siècle a sonné. Ce procès est le deuxième d'un cycle qui se déroule ici, à Marseille, au MUCEM. Pendant trois mois, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée organise tous les lundis un procès du siècle. Des délibérations citoyennes sur les excès de nos sociétés contemporaines qui impactent le temps, l'espace ou le végétal. Cette semaine, le public doit trancher. Avons-nous encore la maîtrise du temps? Quelles sont les causes de cette grande accélération que nous ressentons? En sommes-nous les victimes ou les coupables?
C'est pas du vent sur RFI.
Notre studio est donc installé dans le sud de la France, à Marseille, au MUCEM. Nous avons une superbe vue sur la Méditerranée et le port autonome de Marseille. De quoi inspirer nos deux experts qui vont instruire donc ce procès du siècle. Pascal Chabot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes belge, vous vivez à Bruxelles où vous enseignez à l'Institut des hautes études des communications sociales. Vous avez publié de nombreux livres, notamment Global Burnout, et vous venez de publier Avoir le temps. Essai de chronosophie aux presses universitaires de France. Vous allez nous expliquer ce qu'est la chronosophie. Et en face de vous, Roland Gory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, professeur émérite de psychologie à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez publié vous aussi de nombreux ouvrages comme « La fabrique des imposteurs » et « Si l'effondrement avait déjà eu lieu » et tout récemment « La fabrique de nos servitudes » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Alors pour la plupart d'entre nous, messieurs, le temps se résume à des secondes qui forment des minutes, qui forment des heures, qui forment des jours, qui forment des années. Et nous n'en avons jamais assez pour faire tout ce que nous voulons faire. Pascal Chabot, comment est-ce que vous définiriez le temps?
C'est certainement une des notions les plus complexes et les plus difficiles à définir. On dit que le temps, nous savons ce qu'il est quand on ne nous demande pas de le définir, tandis que quand une définition est exigée, nous sommes souvent acquiescents et il est difficile pour nous de donner une définition. Bon, classiquement, on dit que le temps est le milieu omni-englobant dans lequel se déroule la succession des événements et des phénomènes. C'est le milieu dans lequel tout devenir advient. Et quand on veut qualifier un peu plus ce temps, on peut choisir de distinguer entre un temps objectif, qui est celui que la physique étudie, analyse et pour lequel elle donne certaines équations. Il y a également un temps subjectif, bien évidemment, le temps qui est celui que nous connaissons le mieux, le temps qui n'est pas celui des secondes et des heures, mais qui est d'abord une durée. Et là, le philosophe Henri Bergson, par exemple, a été extrêmement novateur en cherchant à ce que nous nous défions du temps géométrique, du temps objectif, pour nous connecter peut-être davantage à cette vérité immédiate qu'est le temps. Il disait « c'est la création continuelle d'imprévisibles nouveautés ». Voilà une définition du temps. Et à côté de ce temps subjectif, existe bien entendu un temps culturel, le temps des civilisations, car nous ne pensons ni vivons le temps comme un Égyptien de l'Antiquité pouvait l'aborder. Donc la notion est doublement complexe parce que difficile à définir, et puis aussi complexe parce qu'elle est différente selon les points de vue et les disciplines qui la traitent.
Roland Gory, votre définition?
Alors, je ne vous donnerai pas de définition dans la mesure où le mot temps a plusieurs significations. Je vous donnerai d'abord une définition personnelle. Disons que pour moi, le temps, un peu à la manière d'Aristote, c'est le changement des choses, des êtres et des relations. C'est-à-dire, c'est ce qui bouge. Et vous savez que cette conception, qui finalement était quand même énormément branchée sur notre rapport au vivant, notre rapport à la nature, et pour moi, le temps, c'est un peu le battement du cœur du vivant dans le monde, a été quand même recouverte, cette notion, cette signification, par un temps très mécanisé, un temps très rationalisé, celui effectivement qu'évoquait Pascal tout à l'heure, à savoir le temps de la physique galiléenne et newtonienne, qui nous amène à diviser en quelque sorte notre rapport au monde en termes de jours, en termes d'heures, de secondes, de mois. Et je crois que c'est important parce que une de mes définitions du temps serait de considérer que le temps est non seulement une illusion, on y reviendra sûrement, Anne-Cécile, mais le temps est un marqueur de pouvoir. C'est-à-dire qui possède la maîtrise du temps possède le pouvoir sur les choses et sur les êtres humains. Or, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la physique moderne, vraiment, c'est-à-dire la physique relativiste, la physique quantique, elle pulvérise complètement cette conception très mécanique, très rationnelle des physiques antérieures, c'est-à-dire Galilée et Newton, qui nous amène à considérer qu'il y a un passé, un présent et un futur, alors qu'en 1955, quelques mois avant sa mort, Einstein considère que lui, en tant que physicien, pour lui, la détermination entre passé, présent et futur est une illusion. Mais c'est tout de même tout à fait extraordinaire. Donc, pour terminer sur ce premier point, je crois que le temps est une illusion, c'est une construction sociale et qui nous permet de réguler les rapports que nous entretenons avec nous-mêmes et avec les choses. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, nous manquons de temps, tout simplement parce que nous sommes aliénés à une temporalité qui nous est prescrite et dictée par la technique. Une technique intéressée, c'est-à-dire financiarisée et marchande.
Nous allons y revenir. Alors, vous avez tous les deux parlé de cette notion du temps qui passe, le temps que l'on ressent. Comment est-ce que l'on se positionne, nous, les humains, face à ce temps qui passe? Il n'y a pas de procès sans témoin, donc j'appelle à la barre un premier témoin, le philosophe Étienne Klein, qui nous donne sa définition du temps qui passe.
Alors, la question d'aujourd'hui, c'est une question, en fait, assez difficile. C'est la façon dont on représente le temps. Et cette façon, qui n'a pas changé depuis Newton, consiste à représenter le temps par un axe, rectiligne en général, sur lequel on met une flèche et on dit « c'est l'axe des temps ». Et donc on représente le temps comme une variable à une dimension. Un seul nombre suffit à repérer une date. Et la flèche qu'on met là a plusieurs sens. D'abord, elle signifie que si vous êtes présent sur l'axe des temps à un certain instant, appelons-le l'instant T, vous êtes empêché d'y demeurer. C'est-à-dire, si vous êtes présent à l'instant T, aussitôt après, le cours du temps vous oblige à vous déplacer en même temps que lui. Autrement dit, la flèche traduit une sorte de motricité du temps qui vous empêche de rester présent au même instant présent. La deuxième chose que signifie cette flèche, c'est qu'elle vous dit en fait que vous ne pouvez pas choisir librement votre position dans le temps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas décider d'être ici plutôt que là, et si vous avez été présent quelque part, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc ça veut dire que le temps qui est là représenté de façon statique, en fait, il est mû par une forme de dynamique dont le responsable est ce qu'on appelle le moteur du temps. Et donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce que nous sommes capables d'identifier le moteur du temps, ou pour le dire en termes plus familiers, est-ce que nous savons d'où vient que le temps passe ?
Identifier le moteur du temps, d'où vient que le temps passe? Question posée par le philosophe des sciences Étienne Klein. Pascal Chabot, dans votre livre que vous venez de publier, Avoir le temps, vous expliquez, vous, qu'il y a quatre temps qui se superposent pour la première fois dans une civilisation. Expliquez-nous cela et pourquoi ça pose problème.
Oui, il me semble en effet qu'une nouveauté absolument inédite de notre époque est que nous fonctionnons avec des représentations multiples du temps. Les deux représentations originaires, c'est le destin et le progrès. Le temps comme destin, c'est le temps de la nature, le temps qui s'impose, le temps que l'on constate, le temps qui est cyclique d'abord et avant tout, parce que même dans nos civilisations qui sont des civilisations où le temps linéaire prédomine, d'abord et avant tout, c'est le temps des saisons, la succession des jours et des nuits, les cycles de notre corps, bien évidemment. Et ce temps est un temps que l'humain ne maîtrise absolument pas, ne cherche pas à maîtriser. C'est le temps qui s'impose à lui. Et il s'agit finalement, dans ce temps du destin, avec un certain sens des proportions, disons, de savoir ne pas trop râler sur ce temps. Il y a une sagesse du temps qui est une sagesse de l'humain face au destin. Et la modernité, d'abord et avant tout, innove en accueillant le futur dans sa réflexion et en disant que plutôt que d'être dans un temps uniquement cyclique où demain rejouera aujourd'hui, l'humain, par son action, peut être producteur de nouveautés qui créera un lendemain radicalement différent d'aujourd'hui, ou du moins différent d'aujourd'hui. Et le progrès doit être conçu comme progradorer ses marchés en avant, comme une manière de concevoir une différence faite dans le futur à partir de l'action présente. Et cette différence sera alors comprise comme une amélioration. Là, c'est l'ancien et le nouveau, disons, le destin et le progrès.
Mais à cela, vous ajoutez deux nouvelles notions qui sont l'hypertemps et le délai.
Oui, elles sont très récentes. L'hypertemps, c'est le temps du numérique. Voyons, par exemple, si l'on prend un téléphone, son iPhone, on comprend tout de suite ce qu'est le temps du numérique avec alarme, chronomètre, omniprésence du temps. Nos écrans sont d'abord et avant tout des machines à rappeler l'heure qu'il est. Décompte, un temps à rebours qui est tout à fait
combien
nouveau.
De minutes pour lire un article.
Voilà, il vous reste autant de minutes pour arriver à destination, autant de secondes pour tel téléchargement. Ce temps à rebours est typique de l'hypertemps et c'est un temps totalement nouveau. C'est le temps des machines, fondamentalement. Une machine ne connaît absolument pas le temps comme durée, mais une machine sait compter le temps en fonction d'un objectif. D'abord et avant tout, une machine calcule le nombre de secondes ou de millisecondes qu'il lui faudra pour faire ceci et cela. Et le temps, l'hypertemps, est ce milieu dans lequel nous vivons de plus en plus, pour le meilleur et pour le pire. Et puis, rapidement, il y a un dernier temps qui est le délai notamment de la catastrophe écologique. Il reste encore peu de temps avant qu'une altération dramatique de certaines conditions de vie aient lieu sur notre planète. Et cet imaginaire du temps est tout nouveau. Et notre grand défi est de savoir orchestrer ces différentes temporalités.
Roland Gori, comment est-ce que vous réagissez à ces notions d'hypertemps et de délai par rapport à la catastrophe écologique ?
Je voudrais peut-être d'abord, si vous le permettez, réagir à l'intervention d'Étienne Klein.
Allez-y, je vous en prie.
Je crois que, justement, la science moderne, la physique relativiste comme la physique quantique, mettent en évidence que la notion d'un temps vrai ou universel est une illusion. Ça n'existe pas. Pour prendre des exemples très, très simples, par exemple, vous prenez deux horloges atomiques et vous en placez une au premier étage d'un building et l'autre au dernier étage. Eh bien, l'horloge atomique est à même de montrer une différence parce que le temps passe plus vite en haut qu'en bas. C'est aussi, bien sûr, l'expérience de pensée qui est connue de Langevin. Vous prenez deux jumeaux, n'est-ce pas ? Un reste sur Terre et l'autre part en fusée spatiale, n'est-ce pas, dans les astres. Lorsque le jumeau qui restait sur Terre a 40 ans, l'autre a 70 ans. C'est-à-dire que donc vous avez, si vous voulez, pour faire vite, n'est-ce pas, on vieillit plus vite au niveau de la tête qu'au niveau des pieds. Donc, en quelque sorte, il y a là quelque chose d'extrêmement important qui a été mis en évidence, c'est que le temps est une illusion. Ça, c'est le premier point.
Mais comment ça s'explique qu'on vieillisse plus vite au niveau de la tête qu'au niveau des pieds ?
Alors, je ne vais pas entrer dans...
C'est de la physique, il faudrait faire un cours de physique.
Voilà, il faudrait faire un cours de physique, il faudrait parler de la gravité, il faudrait parler de l'accélération, il faudrait parler
des
champs gravitationnels, il faudrait parler d'un certain nombre de notions dans lesquelles, si vous le permettez, Anne-Cécile, je ne prendrai pas le risque de m'aventurer. Bon, par contre, on peut prendre déjà le point de vue philosophique, à savoir que c'est notamment notre civilisation occidentale et en particulier influencée par nos religions, notamment la religion chrétienne, que nous considérons le temps comme une espèce de flèche qui part du passé présent vers le futur et qui serait linéaire, qui serait homogène et qu'on pourrait quantifier. C'est aussi là-dessus que va reposer le troisième point sur lequel je voudrais intervenir et qui rejoint justement ce que Pascal a développé, à savoir la modernité qui a eu besoin de diviser le temps, mais pour des raisons très simples, parce que ça permet une synchronisation, pour être très simple, n'est-ce pas ? Si vous voulez, en France, par exemple, au début du 19e siècle, du 18e bien sûr, on a une multiplicité de temps, c'est-à-dire que le temps est lié quasiment à la ville, voire au village, et il n'y a pas une synchronisation. C'est-à-dire que c'est au moment où on a besoin de synchroniser les horloges, parce qu'il y a une interdépendance des circuits de circulation, que, justement, le temps est imposé. Mais ça met du temps, si j'ose dire. Il faut attendre 1891 pour que, par exemple, l'heure en France soit alignée sur l'heure de la capitale, sur Paris. Il faut attendre 1911-1912 pour qu'il y ait une conférence internationale sur le temps, acceptant l'idée d'un alignement, n'est-ce pas, des fuseaux horaires sur Greenwich. C'est là où on voit que le temps est aussi une norme sociale. C'est-à-dire que c'est l'extension sociale de la norme qui va, avec la révolution industrielle, et ça rejoint ce qu'a dit justement Pascal Chabot, c'est cela qui amène à une rationalisation des activités sociales et productrices qui exige une synchronisation. Et aujourd'hui, bien évidemment, on n'a pas simplement une horloge mécanique, on n'a pas simplement une horloge hydraulique comme du temps de Galilée, on a des horloges atomiques, on a, si vous voulez, une capacité de communication en temps réel et qui est extrêmement pesante sur la vie à la fois sociale et subjective des individus. Et c'est là où on rejoint la question de l'hypermodernité. Si vous le permettez, je terminerai juste par une citation de Jean-François Lyotard, le philosophe, qui me paraît justement dire quelque chose de notre hypermodernité. Il dit que dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous faire produire, pour nous synchroniser en quelque sorte à la fois aux machines, aux activités productrices, eh bien, nous sommes entamés, altérés dans notre capacité de penser.
Pascal Chabot.
Oui, la notion de synchronisation dont parle Roland Gori est absolument fondamentale et il a raison de dire qu'elle est liée au temps comme pouvoir. Si l'on y songe, dès l'origine de la modernité, un peu avant le 15e siècle, dans les abbayes, les cloches étaient déjà là, il y avait déjà une mesure du temps. Et quand on décrit la vie de ces abbayes, on voit bien que chacun pouvait aller dans ses pensées, vaquer à ses tâches, et puis la cloche, elle synchronise l'ensemble des consciences et l'ensemble des activités en imposant une structuration de la journée, une structuration du temps. Et par la suite, quand la montre va se développer, parce que c'est une histoire très technique aussi, l'histoire du temps, quand la montre va se développer, quand posséder une montre qui était l'objet le plus cher que l'on pouvait acquérir au 15e, 16e siècle, posséder une montre, c'était être maître du temps et imposer finalement son temps. Et c'est toute une aristocratie de l'instrument qui voit le jour. Par la suite encore, quand on développe le chronomètre marin au XVIIe siècle avec une souscription, c'est à nouveau une maîtrise du temps qui est un désir de synchroniser les différents bateaux. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, cette notion de synchronisation des consciences, on la vit au quotidien avec un coup de téléphone, avec un message reçu, avec simplement l'ouverture d'un écran. Ouvrir un écran, c'est toujours se resynchroniser au temps universel de l'Internet, des messages, de la communication. Et parfois, certains peuvent le sentir un peu douloureusement, cette synchronisation continue, parce que c'est le temps à soi, le temps peut-être plus libre, le temps non synchronisé à autrui, mais en phase avec la nature, qui fait défaut, qui manque.
Alors justement, le progrès technologique, vous en avez parlé, tous les deux, nous a libérés quand même de tâches ingrates qui nous prenaient du temps. Alors pourquoi ne ressentons-nous pas ce soulagement ? Nous en parlons juste après l'horloge, chantée par des Québécois que nous aimons bien dans cette émission, les Cowboys fringants.
Un homme ordinaire, fut jeune et insouciant, à l'abri des affres des années qui passent, invulnérable, porté par le vent. De cette jeunesse qui croyait-il, hélas, allait se poursuivre éternellement, comme si le temps s'arrêtait, se prélasse. Fort de l'enthousiasme de ses 20 ans, il était certain de mener sa barque, différemment de celle de ses parents. Moi, vous verrez, je vais laisser ma marque, qu'il leur disait un peu arrogant, alors qu'il avait toute la vie devant. Mais les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ordinaire, mais ça montre à l'heure, car soudainement le temps vient à manquer. Si jadis il n'était pas un facteur, ce dernier devient précieux et compté. Et au milieu de cette vaine poursuite, il se dit que la vie passe trop vite. La grosse télé, la petite vision, le voyage dans le sud à la relâche, accepter de vivre comme un mouton, suivre la masse, s'atteler à la tâche. À la remorque du temps qui s'enfuit, l'homme se rend compte qu'il a peu accompli. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.
Les Québécois, les Cowboys fringants, l'horloge dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.
Nous sommes à Marseille, dans le sud de la France, au MUCEM, pour la deuxième édition du Procès du siècle, un cycle de conférences pour mettre en cause les excès de nos sociétés contemporaines et leurs impacts. Aujourd'hui, l'accusé est l'humanité, la victime, le temps. Avons-nous perdu la maîtrise du temps ? J'appelle un deuxième témoin à la barre, ou plutôt une deuxième témoin, Shainez Chougrani, vous avez la parole.
Je suis au regret de vous le dire, mais il est clair qu'en chacun de nous, il y a un petit enfant terrifié. Terrifié par la vie, terrifié par les autres, terrifié par le temps qui passe. Je suis ce petit enfant terrifié qui ose prendre la parole devant vous. Dites-moi, qu'est-ce que le temps qui passe ? Ce sont les rides sur le front, les seins qui tombent, les bourses qui pendent ? Suspendre le temps, c'est donc ça. Une phrase choc qui résonne dans vos têtes. Le temps qui passe, c'est un peu pareil. C'est remarquer qu'on a passé trop de temps sur nos appareils, voir l'heure, et se rendre compte qu'on est en retard pour le rendez-vous qu'on s'était fixé. Le temps, c'est en même temps un sablier au milieu du désert, et c'est aussi un horaire imposé qu'on doit respecter. Le temps qui passe, c'est la gravité, la chute des corps, leur dégradation. C'est un mouvement vers le bas, une entropie. Le temps qui passe, c'est quoi pour vous ? C'est la date de péremption sur le pot de yaourt resté au fond du frigo ? Vous savez ce yaourt à la framboise qu'on n'aime pas trop, mais qu'on s'était juré de manger pour éviter le gaspillage. Le temps qui passe, c'est aussi la banane au fond du panier à fruits, qu'on se dit qu'on aura le temps de manger. Et puis de tache brune en tache brune, la voilà totalement noire, pleine de sucre, mais pratiquement immangeable pour les yeux. Alors c'est poubelle. C'est ça ? Le temps qui passe, c'est être attiré par la gravité. Position horizontale pour le sommeil, position debout la journée, gesticulant partout. Moi, je veux pas de ça. Le temps qui passe devient obsessionnel. Couché, debout, rebelote, métro, boulot, dodo et objectif à remplir. Pour qui ? Pourquoi ? Le temps dans nos sociétés est compté. Ça n'est pas la farniente du lézard au fin fond de l'Afrique. Le temps est découpé en petits morceaux. Réveil à 7h45, petit-déj à 8h, douche à 8h30, début de la journée à 9h15, arrivée du tramway à 9h19, arrivée à destination à 9h37, pause déjeuner à 12h30, reprise du travail à 13h30, pause clope à 15h15, dernier dossier bouclé à 17h45, fin du boulot à 18h. Et voilà comment vous avancez dans la journée, à coups de chronomètre qui vous mène dans une danse avec le temps. Alors dites-moi, Lequel des deux a la maîtrise de l'autre? On s'arrête un instant et on tente de répondre à la question. Avons-nous encore la maîtrise du temps? Comme si nous l'avions déjà eu un jour. Et puis à quoi bon vouloir s'en rendre maître? Maître de la nature, maître des animaux, maintenant maître du temps. Oui, mais de quel temps? Le nôtre, celui des autres? Il se peut bien que nous soyons incapables de maîtriser le temps. Jusqu'à ce que la machine à retourner dans le futur ou le passé soit créée. Alors là, oui. Mais en attendant, maîtrisons le temps, non comme un maître. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit comme un partenaire de danse dont nous serions les débutants. Laissons-nous vaquer à nos occupations favorites sans culpabilité. Laissez le temps mener la danse et voyez où cela vous mène. Aucun autre conseil à ce stade-là, mis à part de vivre en prenant le temps, car la vie est trop courte pour être petite.
Merci beaucoup, Shaïnaz Chougrani, pour cette lecture. Je précise que ce témoignage a été préparé par les participants au gymnase des orateurs, un atelier régulier proposé au public du MUCEM. Et l'objectif de cet atelier est double, hein, s'exercer à l'art de la rhétorique et mener l'enquête sur les thématiques du procès. Alors, je vais demander évidemment à nos deux experts de réagir à ce témoignage, Pascal Chabot.
C'est très beau, ça nous montre que réfléchir sur le temps est évidemment une porte d'entrée et vers la métaphysique et vers la poésie, parce que rien n'est plus abstrait, on l'a dit, mais rien n'est plus concret. Et le texte qu'on a entendu est un texte qui à la fois fait partir la réflexion dans des sphères, pour ainsi dire, métaphysiques, et est également extrêmement ancré dans ce que le temps peut avoir de mélancolique, en ceci qu'il est, vous l'avez bien dit, le lieu du constat de toutes les détériorations, c'est ça, le devenir, mais il y a aussi son pendant, qui est le pendant créatif. Et alors, en vous entendant, je me disais que le temps est aussi ce que l'on cherche à abolir. Et c'est toute la fin du texte. Finalement, dans nos existences, nous passons beaucoup de temps à chercher à l'oublier, le temps. On peut préparer un repas, par exemple, pendant toute une journée, et cette préparation sera séquencé temporellement, et ce repas, ce sera le moment où personne ne regarde sa montre si le repas est bon et agréable. C'est-à-dire qu'on l'aura oublié. Ce qu'il y a de grand dans l'humain, c'est évidemment quand on ne pense pas au temps. Par exemple, quand on écoute de la musique, on regarde un film. Donc se servir du temps pour l'oublier, peut-être que c'est aussi une des manières artistes qu'ont les humains d'un peu tempérer ce dieu sinistre, absurde, effrayant dont on parlait Baudelaire et qui est Chronos.
Roland Gory.
Alors, je crois que c'est un témoignage qui est très précieux pour notre procès, parce qu'il met en relief, justement, je dirais, les deux pôles à partir desquels on peut approcher la notion de temps. Le pôle sensible, c'est-à-dire le pôle du vivant, le pôle de la vulnérabilité. Et il y a un mot qui n'est pas encore apparu au cours de notre procès, c'est le mot de mortalité, c'est le mot de finitude de la condition humaine. Or, derrière le temps, la question qui se pose, c'est le rapport à la mort. Et c'est un rapport extrêmement important. Et je rappelle simplement le Prométhée d'Eschyle. Vous savez que Prométhée n'est pas simplement celui qui apporte la technique et le feu aux hommes pour leur permettre de maîtriser techniquement la nature. Il est aussi celui qui leur fait oublier l'heure de leur mort. C'est-à-dire qu'avant Prométhée, les hommes savaient à quel moment ils allaient mourir. Et du coup, ils étaient apathiques. Ils n'avaient aucune relation entre eux. Et c'est à partir du moment, pour reprendre ce que disait Pascal, c'est à partir du moment où ils oublient, c'est-à-dire qu'on leur supprime ce savoir sur l'heure de leur mort, qu'ils peuvent avoir une vie sociale et une vie humaine. L'autre pôle, effectivement, c'est le pôle de l'aliénation que constitue la rationalisation du temps dans la modernité. Et on revient à la question du temps comme marqueur de pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'au départ, ce sont les autorités ecclésiastiques qui indiquent le temps. Et elles indiquent le temps, par exemple, à quel moment on peut commencer à moissonner, à quel moment on peut commencer à planter. Quand je parle d'autorités ecclésiastiques, je parle des sorciers, je parle pas seulement des prêtres. Voyez. Et puis, progressivement, ce sont les autorités temporelles, c'est-à-dire le roi. C'est par exemple, je crois c'est au XVIe siècle, que un roi français décide que l'année, le début de l'année, commencera le 1er janvier. Établir le calendrier, comme le dit le sociologue Bourdieu, c'est établir à l'intérieur de nos têtes un certain rapport à notre vie, à notre monde. C'est-à-dire que le temps est à la fois une structure sociale et une structure cognitive, une structure psychique. Et à l'heure actuelle, n'est-ce pas, dans l'hypermodernité, dans la postmodernité dont on évoquait, mais déjà dans la modernité, on a une très belle définition du moderne par Baudelaire. Le moderne, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent. C'est-à-dire que ça ne dure pas. Et on se retrouve à ce moment-là face à cette crise de la modernité dont parlent les historiens, c'est une discordance des temps. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes totalement aliénés à des machines, mais à des machines ultra perfectionnées, comme l'a rapporté votre témoin, qui nous disent quasiment minute par minute quel va être l'emploi de notre temps. Et tout emploi du temps est quelque part une confiscation de notre vie.
Mais alors comment est-ce qu'on peut concrètement expliquer ce paradoxe selon lequel d'un côté nous manquons de temps alors que de l'autre nous en gagnons toujours davantage grâce aux avancées techniques? Alors il y a le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa que vous connaissez sûrement qui a beaucoup travaillé sur ce paradoxe notamment dans son livre Aliénation et accélération et il explique que il y a un siècle finalement on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de machine à laver et donc on prenait du temps pour se déplacer, on prenait beaucoup de temps pour laver le linge. Et puis si on aurait gagné donc d'importantes ressources de temps libre si nous avions parcouru les mêmes distances qu'auparavant et lavé notre linge à la même fréquence. Mais ce n'est pas le cas puisque aujourd'hui nous parcourons plus de kilomètres et nous changeons de vêtements tous les jours. Donc en fait, les avantages du progrès, nous les avons gommés en termes de temps puisqu'on consomme de plus en plus, de plus en plus vite, de plus en plus de choses. On multiplie les tâches dans le temps qui nous est imparti grâce au progrès au lieu de dégager du temps, Pascal Chabot.
Mais cette multiplication des tâches et cette multiplication des possibles est peut-être elle aussi un progrès. Et je pense que dans le débat sur l'accélération et sur la décélération, on ne peut pas être trop univoque. C'est comme le débat entre croissance et décroissance finalement. Ce sont des processus généraux et abstraits, la croissance, la décroissance, l'accélération, la décélération. La vraie question c'est qu'est-ce qui doit accélérer et qu'est-ce qui doit ralentir? La justice sociale par exemple peut accélérer et doit accélérer bien davantage. La financiarisation de toutes les disciplines et de l'enseignement, par exemple, elle ferait bien d'être ralentie. Donc, il y a à chaque fois, plutôt que la condamnation d'un processus général, et là je parle aussi par rapport à notre procès, un choix de la bonne temporalité pour s'adresser aux bonnes choses. Cela étant, pour le progrès, il faut voir les choses de cette manière-ci, me semble-t-il. Il y a une figure du progrès qui est triomphale dans nos sociétés et qui est un progrès utile. Ce progrès, c'est celui, par exemple, que l'on peut visualiser si l'on décide de placer sur une sorte de lignée mentale tous les téléphones dont on s'est servi dans son existence. Là, c'est flagrant. On verra un progrès en miniaturisation, en performance, en indépendance et en capacité de téléphoner en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et ce progrès, s'il est triomphal, c'est parce qu'il fonctionne par capitalisation. Les techniques qui ont déjà été inventées ne doivent pas être réinventées. L'humanité dispose d'un stock de savoir, de connaissances de plus en plus important et à chaque génération plus importante. Et nous le léguons à nos enfants qui le lègueront à ses enfants. C'est pour ça que l'accélération technoscientifique est une réalité. Cela va de plus en plus vite. Mais ce progrès-là, s'il est triomphal, n'est pas le seul. Et ce dont nous manquons fondamentalement, c'est d'une autre figure du progrès, pas le progrès utile. Moi, j'appelle le progrès subtil. Subtella, c'est ce qui est en dessous d'une toile. Subtella, le subtil, c'est ce qui est en dessous d'une toile. Et ce sont les trames fondamentales. Les trames, les fils premiers, les liens qui nous lient aux autres, à nous-mêmes, à la Terre, à ce qui compte, à ce qui importe. Et là, il y a aussi moyen de progresser. Là où il y a aussi moyen de chercher un peu mieux, à mieux se connaître, de chercher à être plus respectueux, de chercher à être plus juste. Et c'est tout un progrès qui est finalement le progrès humain qui a été au centre de l'humanisme classique, qui a été au centre de la philosophie jusqu'au 17e, 18e siècle et que l'on oublie, une humanité qui ne connaîtrait qu'un progrès utile sans progrès subtil serait une humanité qui perdrait véritablement son âme.
Roland Gori.
Je vous répondrai quand vous parlez de progrès. George Orwell répond quand on me parle de progrès, je demande toujours s'il me rend plus humain ou moins humain. Donc, si vous voulez, le progrès technique, le progrès industriel, le progrès scientifique ce sont des progrès tout à fait formidables. On l'a bien vu à propos de l'épidémie, la rapidité avec laquelle on a pu mettre en place, découvrir scientifiquement, produire industriellement, distribuer rapidement un certain nombre de moyens préventifs, voire thérapeutiques. Simplement, ce progrès technique, à l'heure actuelle, il est asservi essentiellement au négoce. Pourquoi j'emploie ce mot de négoce ? Parce que, je pense que Pascal, qui est philosophe, le sait, dans négoce, c'est l'opposition avec osium, c'est-à-dire le temps libre, le temps du repli, le temps du retrait, le temps où je peux me retrouver moi-même en intériorisant les autres de ma vie sociale, de ma vie sentimentale, de ma vie psychique. Voyez ? Et donc, cela veut dire que le problème n'est pas, bien sûr, la toxicité des progrès techniques, c'est la toxicité des manières dont socialement et psychologiquement nous nous asservissons à une technique qui devrait nous servir. Et là, c'est le point important sur lequel j'essayais aussi d'insister tout à l'heure, à savoir que c'est vraiment la deuxième moitié du 19e siècle. C'est vraiment le moment où la rationalisation du temps, où la division du temps est en quelque sorte au service, si vous voulez, d'un contrôle social, d'une part, et d'un développement industriel, d'autre part. Contrôle social, il faut être très, très simple. Vous savez, par exemple, le temps horaire des domestiques, le temps horaire des artisans, le temps horaire des ouvriers, c'est quelque chose de relativement récent. N'est-ce pas ? En plein 19e, vous avez les maçons, les couvreurs, les plombiers, qui c'est partie finie, et ils sont pas tenus à des horaires. Or, les cadences infernales, vous savez, c'est les temps modernes de Charlot, où Charlot, finalement, à force de faire le même geste, finit par lui-même devenir une pièce, un rouage de la machine dans lequel il s'encastre. Et c'est là où nous voyons qu'en quelque sorte, la rationalisation du temps à laquelle nous sommes aliénés fabrique ce que le sociologue Bourdieu appelle des habitus, c'est-à-dire une disposition à agir et à penser d'une certaine manière. Et c'est là où le temps devient une norme, un ensemble de normes sociales qui asservit. La norme, c'est l'ensemble des exigences qu'on impose à des existences. Et aujourd'hui, effectivement, la manière dont on divise le temps et la manière dont le temps est utilisé comme marqueur de pouvoir, je reprends cette expression, asservit les individus. C'est ça le problème, et confisque leur capacité à vivre et à échanger.
Le progrès social n'est donc pas à la hauteur des progrès technologiques. Et pourtant, la course à l'innovation s'accélère. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter les Rolling Stones et leur vision à eux du temps. Time is on my side. Rolling Stones, Time is on my side, dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI.
Quelle heure est-il ?
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Vous serez peut-être étonné d'apprendre que l'heure, cela se fabrique.
Pour nous écrire,
au quatrième top,
c'est pas du vent@rfi.fr.
Il sera 17h18.
Nous sommes à Marseille, dans le sud de la France, au MUCEM, pour la deuxième édition du Procès du siècle, un cycle de conférences pour mettre en cause les excès de nos sociétés contemporaines et leurs impacts. Notre studio est installé face à la Méditerranée et au port autonome de Marseille. Aujourd'hui, l'accusé est l'humanité, la victime, le temps. Et avec nos deux experts, le psychanalyste Roland Gori et le philosophe Pascal Chabot, nous nous demandons si nous avons perdu la maîtrise du temps. Troisième pièce à conviction pour instruire ce procès, un saut dans le monde virtuel.
Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Ouais.
C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un.
Le métavers. Le métavers. Le métaverse, non, c'est non. Quoi?
C'est la contraction de méta et univers. Pour comprendre, il faut que vous vous imaginiez un monde où vous pourriez danser en boîte de nuit avec des gens qui se situent à des milliers de kilomètres de vous. C'est un monde où on pourrait faire cette émission avec le même décor, les mêmes personnes.
Mais sauf à la plage, sans que ça se voit.
Voilà, sauf que chacun de nous, ce serait chacun chez soi. Un monde de science-fiction en somme, grâce à des casques, il serait accessible grâce à des casques de réalité virtuelle ou des lunettes. C'est le Graal pour Facebook en ce moment. Facebook promet que cette nouvelle technologie n'appartiendra à aucune entreprise. En fait, c'est un peu comme Internet. Sa caractéristique principale sera son ouverture et son interopérabilité.
Le métaverse, voilà le monde vers lequel nous allons, où le virtuel prend autant de place, si ce n'est plus que le réel. Une vie quotidienne à base de jeux vidéo géants, finalement. Alors, que deviendra la notion du temps dans ce monde-là, Pascal Chabot? Qu'est-ce que ça vous inspire, le métaverse?
C'est effectivement un futur et il est inéluctable. Cela m'inspire plusieurs choses. D'abord, on perd toujours davantage l'espace. Plus on est dans le temps et plus on est immergé dans des environnements virtuel, immersif, comme un métavers où, effectivement, on peut écouter un concert devant son ordinateur, avoir un avatar qui se vêtira de telle ou telle manière, en l'achetant, bien entendu, en payant ses vêtements virtuels, on sera toujours davantage devant un écran. Le système contemporain, il est matériellement descriptible à partir de trois réalités, le verre, le grand verre plat qui fait une frontière entre le dedans et le dehors, les chaises et l'écran. Être dans le système, c'est souvent être assis devant un écran du côté de la vitre où règne le conditionnement atmosphérique. Et dans cet univers du système, on consomme évidemment. Et ce que l'on oublie complètement de faire et qui est fondamental dans toute la civilisation humaine, c'est de contempler. C'est simplement de contempler, d'être face à du plus grand que soi, plus puissant que soi. On voit la mer ici derrière. Là, c'est ce que l'on ne consommera jamais, ce dont on ne fera jamais le tour. Plus un environnement comme le métavers est finalement un environnement qui est présenté comme mettant tout à disposition et laissant l'humain interagir avec tout, plus on sera dans une logique de consommation, mais finalement où l'essentiel de l'humain, ce qui lui importe le plus, ne sera pas nourri. Donc, quand je dis que c'est inéluctable, cela sera et sans doute cela offrira toute une série de possibilités inanticipables à l'heure actuelle. Mais une fois de plus, en nous retranchant dans ces bulles temporelles, c'est la possibilité de se mouvoir, la possibilité du dehors, du grand dehors, que l'on oublie. Et cet éloignement-là est un éloignement qui nous appartient de conjurer.
Roland Gori, vous avez publié un livre qui s'appelle « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ?» On en approche en tout cas, là. C'est-à-dire que si l'horizon, c'est d'être dans notre salon avec un casque en 3D pour explorer le monde, se couper de la nature avec un coût en plus écologique de toutes ces technologies extrêmement élevées, on y va direct là, vers l'effondrement.
Oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Anne-Cécile Bras, je suis d'un optimisme modéré, c'est-à-dire pessimiste. Mais, plaisanterie mise à part, je ne suis, si vous voulez, ni technoprophète, ni technophobe. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'utilisation qu'on va faire de la technique, et notamment son utilisation sociale, psychologique et culturelle et politique, qui est déterminante. Alors, l'humanité est ce qu'elle mange. Aujourd'hui, ce qu'elle mange, c'est du numérique. Donc, effectivement, l'humain risque de se transformer en profil algorithmique, en profil biostatistique, et qui sera facilement géré par une oligarchie mondiale. Donc, c'est le problème majeur. Alors, ce n'est pas inéluctable. Hein. On peut effectivement réclamer, et je pense que c'est, à mon avis, une revendication politique et sociale pour moi qui est essentielle, revendiquer du temps pour se rencontrer, du temps pour parler, du temps pour se retrouver dans le rapport dont Pascal parlait avec le corps, avec le sensible. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du poète Édouard Glissant qui dit « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Quand il dit « rien n'est vrai », il veut dire qu'il n'y a pas de vérité absolue telle que, par exemple, les scientifiques, pas les scientifiques qui sont des gens sérieux, mais les scientifiques peuvent finalement se prévaloir d'une vérité de la science. Mais tout est vivant. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans une sympathie, une empathie avec le monde. En tout cas, nous devrions l'être. Donc ça veut dire que, si vous voulez, nous ne devons pas simplement entrer dans un monde numérique et nous dissoudre. Et je crois que c'est un point important de voir comment, justement, les exigences aujourd'hui de réactivité immédiate par les signaux algorithmiques nous privent de la possibilité de sentir notre rapport à la vie, notre rapport au temps. C'est à nous, je dirais, politiquement parlant, culturellement parlant, psychologiquement parlant, de reconnaître que le temps n'existe pas en dehors d'une représentation sociale qui est fabriquée dans une société donnée à une époque donnée et qu'il nous appartient de la modifier pour retrouver le temps pour penser, le temps pour vivre, le temps pour aimer. C'est cela qui me paraît important. Et donc, effectivement, réclamer en quelque sorte du temps libre pour des actes de création. Pas du temps libre pour entrer dans une consommation qui nous habitue, je dirais, à la vie tragique de l'existence, mais du temps libre pour penser, pour aimer, pour créer. C'est cela qui me paraît extrêmement important et qui, à mon avis, nous permettrait de comprendre que le temps étant une construction sociale, il n'est pas naturel de nous l'imposer comme une évidence.
Pascal Chabot, vous qui avez publié Global Burnout, j'imagine que vous avez envie de compléter ce que vient de dire Roland Gori.
Oui, évidemment, et on pourrait en parler extrêmement longtemps, justement, parce que dans ce qu'il disait, il y a de très très nombreuses pistes de réflexion. Effectivement, s'adapter au temps, s'adapter toujours davantage au temps, courir après le temps comme une poule sans tête, est une chose que l'on peut, dans certaines pathologies du travail, entendre et de manière parfois extrêmement douloureuse. Les gens simplement s'adaptent, mais ne se réalisent pas, s'éloignent toujours davantage d'eux-mêmes. Et l'essentiel est de retrouver, non pas un type de maîtrise du temps, mais la capacité de poser la question qu'André Breton avait, comme un programme, fait inscrire sur sa tombe du cimetière des Batignolles, « Je cherche l'or du temps », L'OR, disant par cela que, dans le temps qui est, ce milieu omni-englobant, il y avait une quête possible, qui est une quête qui est dans le temps, mais qui est une quête de qualité, finalement, du moment de qualité, quête de poésie, quête de justesse, de justice, d'engagement, et que l'or du temps pouvait exister. Le temps peut être plombé par moments, mais il y a, par notre activité, par nos désirs, moyen de, finalement, une opération alchimique consacrée concernant le temps. Et cela est très très beau. Cela veut dire que s'il n'y a pas de maîtrise du temps, évidemment, il peut tout de même y avoir une maîtrise de nos désirs, de ce que l'on cherche et de ce que l'on appelle finalement qualité.
Et c'est un sursaut dont nous avons bien besoin, on l'a bien compris à travers vos différents propos. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Les procès du siècle, c'est tous les lundis soirs à Marseille dans l'auditorium du MUCEM à 19h jusqu'à fin mars. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à réagir à l'émission par mail cestpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.
Spéciale présidence française.